Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez, à la machine.
Alain Souchon et sa chanson « L'amour à la machine ».
En culture cette semaine, ce sont les arts picturaux et plus particulièrement Saint-Jérôme qui attire l'attention. Saint-Jérôme, je parle évidemment pas de la ville, mais bien du saint, le Saint-Jérôme, auteur de la Vulgate, la version de la Bible que les catholiques connaissent bien. C'est aussi un tableau de David qui est à Québec et que la Fabrique a décidé de mettre en vente. Là, il s'agit de savoir qui va l'acheter et avec la permission de qui. Yann Bussière s'est posé la question dans les pages du Soleil. Vente du Saint-Jérôme, Rome pourrait devoir trancher. Peu importe à quelle institution muséale le tableau Saint-Jérôme entendant la trompette du jugement dernier sera vendu, les plus hautes instances de l'Église catholique devraient avoir la décision finale quant au sort de la toile du peintre néoclassique Jacques-Louis David que tente de vendre la Fabrique Notre-Dame de Québec. En fait, peu importe à quel musée nous vendons, c'est l'évêque qui aura le dernier mot. Et je dirais même que pour une vente aussi importante, ça doit aller jusqu'à Rome, a déclaré au Soleil Mgr Denis Bélanger, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec, à propos de l'œuvre évaluée à 6,2 millions de dollars canadiens. Le dossier, qui fait déjà beaucoup jaser au Canada, rebondira donc fort probablement au Vatican avant de connaître sa conclusion. Monseigneur Bélanger avoue qu'il n'aurait jamais pensé que la mise en vente de l'œuvre qui avait été donnée à la fabrique dans les années 30 par les sœurs Geneviève et Henriette Cramaille déclencherait une telle controverse. Le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa tente de vendre la Tour Eiffel de Marc Chagall pour acheter l'œuvre de David. Mais le Musée de la civilisation de Québec a blâmé l'institution ontarienne de ne l'avoir jamais contacté à ce sujet, alors qu'il détenait un droit de premier refus sur l'œuvre du peintre français en vertu d'une convention de dépôt ratifiée avec la fabrique. On ne s'attendait pas à une réaction aussi prononcée. Actuellement, la controverse est très forte et on veut qu'elle trouve une solution. Nous sommes en contact avec les gens qui veulent avoir le tableau. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il demeure au Québec, mais nous ne pouvions pas ne pas l'offrir à Ottawa puisque le Musée des beaux-arts du Canada l'a exposé durant 18 ans. Le Musée de la civilisation en a la garde, bien sûr, mais il ne l'a jamais exposé, résume-t-il. Le prêtre indique d'ailleurs avoir proposé l'œuvre au Musée national des beaux-arts du Québec et au Musée des beaux-arts de Montréal. Dans les deux cas, on parle d'un intérêt mesuré et d'offres timides. Je comprends qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour faire l'achat de cette œuvre. Ça nous a amené à aller voir ailleurs à l'international, histoire d'avoir une idée de la valeur de l'œuvre. Et on a vu un vif intérêt. Par contre, je le répète, on n'a jamais demandé de certificat d'exportation. Pour la fabrique, la vente du tableau servirait à alimenter un fonds de stabilisation qu'elle est en train de créer pour assurer, à travers les décennies et les siècles, l'avenir de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec et de l'église Notre-Dame des Victoires. Théâtre, tiens, et plus particulièrement théâtre engagé. D'abord, une courte nouvelle pour vous dire qu'on remonte Oléana à Bromont. Oléana, c'est cette pièce de Mamette que joue avec beaucoup, beaucoup d'aplomb. J'oublie son nom, quelle horreur. C'est une excellente pièce qui met en scène un professeur et une étudiante dans un huis clos de 3 actes et qui s'inscrit parfaitement dans les événements actuels de MeToo. Alors, si vous voulez faire du théâtre d'été cet été, donc, et voir une pièce qui n'est pas une comédie, je vous recommande fortement d'aller voir Oléana à Bromont. Par ailleurs, à Saguenay, Mulliat, l'espoir d'un dialogue entre les peuples, c'est la pièce montée pour parler d'intégration des Premières Nations. Natacha Canapé-Fontaine, Christophe Payeur et Marco Collin font partie de la distribution de Mulliat, une pièce qui fait du bien à l'âme puisqu'elle laisse entrevoir la possibilité d'un dialogue entre Québécois et Amérindiens. Elle a été présentée jeudi soir à la salle Pierrette Gaudreau de Jonquière. C'est un texte de Daniel Côté. Le public nombreux s'est levé pour applaudir les comédiens Marco Collin, Natacha Canapé-Fontaine, Charles Bender et Christophe Payet qui, pendant plus d'une heure, avaient défendu Mulliat, une pièce qu'ils ont créée avec la complicité du metteur en scène Xavier Huard. Rien de très anormal, sauf qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'air. Appelons ça de l'espoir, mêlé à une forme d'apaisement. L'histoire qui venait d'être racontée est celle de Ninou de Masteuillatch, Chanis, qui préfère qu'on l'appelle Charles. Sitôt arrivé à Montréal, il essaie tant bien que mal d'apprivoiser la grande ville et aussi son colocataire, un pur laine prénommé Christophe. Celui-ci connaît tous les replis de l'Europe, mais rien du Québec à l'extérieur du 514. Sa bonne volonté est manifeste, d'autant que son extrême maladresse qui, rapidement, va retrousser le poil du nouveau venu. Une crise éclate le jour de l'anniversaire de Chanis Charles. Croyant rendre hommage à sa culture, Christophe lui remet une coiffe de plume en cadeau. La réplique cheap d'un objet cérémonial sacré, tonne le gars du lac Saint-Jean. D'autres incidents suivront, dont un qui met en cause le frère aîné, Marco. Ayant assimilé le départ du cadet à une désertion, il atterrit dans l'appartement et cherche à rétablir les ponts, ignorant que l'autre se sent étranger partout, y compris parmi les siens. On approche d'une résolution qu'annonçaient les chants amérindiens entonnés doucement par Marco Collin et Natacha Canapé-Fontaine, ainsi qu'une jolie danse et des échanges en langue innue, sans parler du moment où le comédien, originaire de Masteuillatch, est sorti de son personnage afin de s'adresser aux spectateurs. Pour couronner cette intervention qui a allégé l'atmosphère, il leur a fait répéter un chapelet de mots avant de les féliciter. « Vous venez de compter jusqu'à 10 ». Un autre trait d'humour est survenu lorsque Natacha Canapé-Fontaine a campé une amie de Christophe, une blanche qui méprise les Amérindiens. Impossible d'oublier qui incarne ce personnage. En effet, même quand celui-ci profère des insanités du genre « on n'a pas à s'excuser d'avoir gagné », c'est aussi sur un ton léger que Christophe et les deux frères ont pris congé du public au sein duquel on remarquait plusieurs représentants des Premières Nations. Allez, le mauvais goût ne tue pas, mais il peut encore être interdit par la justice. Mexique, la justice interdit la vente d'une Barbie à l'effigie de Frida Kahlo. Un juge mexicain a interdit au groupe américain Mattel de commercialiser au Mexique une poupée Barbie à l'effigie de la peintre Frida Kahlo, donnant ainsi raison à la famille de l'artiste, a annoncé jeudi l'avocat de cette dernière. Cette décision s'applique immédiatement, mais Mattel peut faire appel, a indiqué l'avocat Maître Pablo Sangre. La famille de Frida Kahlo espère désormais pouvoir engager une procédure juridique aux États-Unis afin d'obtenir que la poupée soit également interdite dans ce pays, a-t-il précisé. Le juge a ordonné à Mattel et à ses distributeurs qu'ils s'abstiennent de tout acte tendant à utiliser la marque, l'image ou l'œuvre de Frida Kahlo. Contactés par l'agence France-Presse, les représentants de Mattel au Mexique n'étaient pas joignables jeudi soir. En mars, le fabricant américain de jouets avait dévoilé une série de poupées à l'effigie de personnalités baptisées « Inspiring Women », femmes inspirantes, parmi lesquelles figure Frida Kahlo. L'épouse du grand muraliste mexicain Diego Rivera et un temps la maîtresse du révolutionnaire russe exilé Léon Trotsky, Frida Kahlo, est considérée comme l'une des plus grandes peintres du 20e siècle pour ses émouvants autoportraits dans lesquels elle exprime à la fois sa douleur physique et son isolement. Mais la famille de l'artiste mexicaine a contesté à la société californienne le droit de commercialiser cette poupée. « Je suis ravi, car je crois que justice a été rendue. C'est nous, la famille Kahlo, qui détenons les droits pour toutes ces choses », a dit à l'AFP Mara Romeo, la petite nièce de l'artiste. Allez, la chose me revient, je vous le dis tout de suite. Oléana, c'est Raymond Cloutier qui joue dans la pièce. Voilà, je l'ai retrouvé. Il présentera non pas à Bromont, mais à Sutton. Donc, mea culpa, mea maxima culpa. Mais je vous invite tout de même à aller le voir. Ça va être aussi bon à Sutton que ça l'aurait été à Bromont. Charles Taylor, l'homme de la réconciliation. Un texte de Lisa Marie Gervais. C'est rare qu'on parle de philosophe, mais vous allez voir, ça s'intègre. Il est un peu un Socrate des temps modernes. C'est le genre de philosophe qui préfère de loin les conversations de la rue à la Tour d'Ivoire, aimant poser les questions plutôt que se les faire poser. Mais ces jours-ci, Charles Taylor n'aura pas le choix de se prêter au jeu de l'entrevue, Métropolis Bleue lui décernant son grand prix du festival pour l'ensemble de sa carrière d'essayiste. « Je suis assez engagé dans la cité », déclare l'homme de 86 ans avec l'humilité qu'on lui connaît. Il y a des intellectuels qui se tiennent à l'écart, mais ce n'est pas mon cas. Dès l'enfance, le philosophe, né d'un père anglophone et d'une mère francophone, se sentait investi de la mission de réconcilier les deux solitudes. C'est l'histoire de toute ma vie. Quand j'étais petit, j'entendais des gens entièrement anglophones parler des francophones et vice-versa, mais ils étaient complètement à côté de la traque. Ils interprétaient de travers ce que disait l'autre sans réellement se comprendre. Alors j'ai commencé ce travail ingrat d'expliquer les visions des uns et des autres, se rappelle cet ex-étudiant d'Oxford et professeur émérite de l'Université McGill. Aujourd'hui, on se déchire beaucoup moins. Assez rapidement, son engagement social l'a mené jusqu'en politique, alors que dans les années 60, il s'est présenté à 4 reprises aux élections fédérales pour le NPD, dont une fois en 1965 contre le futur premier ministre Pierre-Éliott Trudeau. Une époque riche où Charles Taylor dit avoir appris l'essentiel, surtout lors des séances de porte-à-porte, mais qui, heureusement, croit-il, n'a rien donné de concret. « Ça m'aurait peut-être ruiné, plaisante-t-il, non pas au point de vue financier, mais je ne sais pas si j'aurais été heureux finalement. J'ai énormément aimé pouvoir écrire mes livres, faire mon travail. » Un travail que de plus en plus d'intellectuels comme lui ont du mal à faire à l'ère du tout à l'opinion et de l'instantanéité. Le philosophe essayiste célèbre pour son ouvrage « Les sources du moi » et d'autres traduits en une 20aine de langues s'en inquiète. Malheureusement, le rôle des intellectuels n'est plus ce qu'il était. Une perte de terrain qu'il explique par la fragmentation des auditoires, l'enfermement de certains publics qui ne s'abreuvent qu'à une seule source médiatique et où les voix des grands penseurs ne percent plus la cacophonie de l'opinion. Aujourd'hui, remarque-t-il, c'est CNN ou Fox, TVA ou Radio-Canada, sans parler des réseaux sociaux préférés ou aux médias traditionnels. Les gens croient à une information qui leur vient de leur cercle d'amis, souvent complètement fausse, et il n'y a pas moyen d'apporter une autre vision, dit ce spécialiste de Hegel, en déplorant que cela laisse libre cours à l'islamophobie stupide et aux pires théories du complot. C'est tout un problème. N'empêche, Charles Taylor reconnaît que la situation est meilleure au Québec, où, à tout le moins, on écoute encore la parole des intellectuels. Je le vois, l'importance que les politiciens accordent à notre rapport et de la Commission. C'est plutôt rare, souligne-t-il. Mes collègues dans les grandes universités américaines sont stupéfaits que je sois plutôt engagé en politique. Ça ne se fait jamais là-bas. Oui, de temps en temps, ils écrivent un texte d'opinion dans le New York Times, mais penser qu'ils pourraient avoir une prise plus importante sur le débat public ne leur vient même pas à l'esprit. Ils sont résignés à être des exilés dans leur propre processus politique.
S'il faut abattre la bête pour être renaître soi, j'irai me terrer au fond des bois avec ma rage comme le tout dernier rempart à la douleur de mourir encore une fois. L'amour est un piège à ours. L'instinct la retient par un fil. Mais tu veux tuer la guerre en moi, déchirer la chair indocile. Avec tout autour, je les entends, tous ces gens armés jusqu'aux dents. Et je résiste encore une fois. L'amour est un piège à ours. De liberté et tout relâche et brise enfin. Le sang chaud à la lie du vin, je me relève et je marche de revers jusqu'à toi. Tous les chemins sont mon chemin.
David Portolance et sa chanson Piège à ours.
Dernière plage de cette émission, donc celle où les animateurs, particulièrement les remplaçants insécures, réalisent tout ce qu'ils ne pourront pas lire et doivent faire des choix. Eh bien, j'en fais un qui me fait plaisir puisque je vous lis du José Blanchette. Sa dernière chronique, Cool à la folie, nous parle de bipolarité. Même l'imperturbable Pascal Nadeau l'a échappé après le bulletin de météo du téléjournal cette semaine. Il faut être fait fort. Chaque mois d'avril, le 13 précisément, je repense à mon père qui s'est enlevé la vie dans cette grisaille de trop. À l'époque, il y a 15 ans, on disait dépression, pas bipolarité. On ne parlait même pas de bipolarité. On mentionnait maniaco-dépression du bout des lèvres et on ne soupçonnait même pas l'importance du trouble affectif saisonnier sur l'humeur. C'est en visionnant la télésérie Trop, mettant en vedette deux sœurs dont l'une est bipolaire, que j'ai fait la paix avec la maladie. On dit trouble de santé mentale. J'ai fait la paix avec l'idée, en tout cas, que j'ai 8% de risque de l'être à 100%. Un chiffre de plus, à croire ou non. Toute ma routine de vie, on préfère dire hygiène, mais on croirait une commandite d'Oral-B, est construite autour de ce 8%. Fou, folle, folle ou dégenré de même. Bien sûr, une comédie s'attarde surtout à l'aspect manie plutôt qu'au versant dépressif. C'est plus divertissant, plus cocasse. N'empêche, la comédienne Virginie Fortin, qui incarne Anaïs, la bipolaire, nous rend la dérive de l'humeur attachante et crédible au possible, qu'elle soit en bobette dans la rue ou vidant ses médicaments dans la cuvette des toilettes en se croyant guérie. La complicité entre les deux sœurs fait habilement avaler la pilule. Une artiste visuelle de mon entourage, Sarah, prénom fictif, a appris l'année dernière qu'elle avait la bipolarité. Je ne suis pas une maladie, je ne suis pas une cause, mais trop est un début d'acceptation du trouble mental. On aime Virginie Fortin pour sa témérité, son énergie. Ça fait du bon cinéma parce que ça permet une liberté par procuration. Par contre, Sarah, mère célibataire de 3 enfants en garde partagée, est bien consciente que l'entourage d'Anaïs est assez idéal et lui procure un soutien inespéré. Moi, j'étais le clown triste pendant 5 ans. J'étais une morte vivante 80% du temps. C'est moins sexy à l'écran. Essayez de s'enlever la vie aussi. Sarah a déjà parlé de sa dépression en public, mais considère que le tabou est encore présent pour la bipolarité. Ça lève doucement, mais la stigmatisation est forte. J'ai mis 3 dépressions à sortir du déni. La folie, ça passe mieux dans le milieu de l'art car j'étais tellement créative et survoltée que c'était sublimé. On a tellement d'idées, on veut changer le monde, on a accès au divin. Non, nous sommes le divin. D'ailleurs, Robin Williams disait, c'est cité dans le texte, « On ne nous donne qu'un seul petit grain de folie et si on le perd, on n'est plus rien. » Belle cause pour la cause a fait bouger des choses depuis 2010, libérant une certaine parole. Paru la semaine dernière, un livre comme « Mes tempêtes intérieures » de Vanessa Beaulieu, qui regroupe 25 personnalités connues, dévoilant tantôt leur dépression, tantôt leurs troubles anxieux, leur bipolarité, j'en ai compté 4, leurs troubles alimentaires, leurs TOC, n'aurait pas vu le jour il y a 10 ans. Les Varda Étienne, elle a publié en 2009 « Maudite folle » sur sa bipolarité, ne courait pas les rues. Aujourd'hui, pour toutes sortes de troubles mentaux divers, Biz, Florence K, Jean-Marie Lapointe, P.A. Méthode, Jean-Nicolas Véro, Ingrid Falaise rendent un fier service à la société en sortant du placard de façon honnête et en affichant une vulnérabilité qui a nourri leur art, mais empoisonné une partie de leur vie, souvent dès l'adolescence. De plus, on comprend en les lisant qu'un trouble peut en cacher un autre, qu'une bipolarité peut s'accompagner d'hypersensibilité, que le petit joint peut provoquer une psychose, qu'une dépression peut se doubler d'anxiété, que le mal de vivre rattrape 1 personne sur 5 au cours de son existence et que nul n'est à l'abri d'un court-circuit. J'ai été étonné par la liberté de parole qui entourait cette mise à nu d'un de nos organes les plus secrets, le cerveau. Marie-André Labbé, l'auteur de « Trop », ne semble pas si surprise. C'est un tabou qui commence à cesser de l'être. Ma génération, les 35 ans, les enfants rois narcissiques, on veut être parfait, on a besoin de le dire. Moi, je suis TDAH ou bipolaire. on a besoin de s'exprimer et on assume davantage malgré la peur d'être ostracisé. Inspirée par plusieurs personnes de son entourage, la jeune femme s'intéresse surtout aux gens différents, car ce sont eux qui la font avancer. Le personnage d'Anaïs lui permet de verbaliser haut et fort ce qu'elle pense. Le public était bien plus scandalisé par la sexualité féminine que par la maladie mentale dans la série. Un grand psychiatre, Jean Houry, définit une folie très répandue chez les gens qui ne sont pas dans les asiles, ceux qu'ils appellent les normopathes, en ces termes, des gens qui se prennent pour leur fonction. Certains psys du Royaume-Uni commencent à prescrire la peinture et le jardinage à leurs patients anxieux ou dépressifs. L'émission Découverte de dimanche dernier nous présentait deux cas, l'un d'anxiété doublé de choc post-traumatique et l'autre de dépression, guéri en une ou deux séances par la prise de LSD ou de MDMA, dans le cadre d'une recherche à Los Angeles. J'ai écrit à une amie psychiatre pour lui proposer un road trip hallucinogène. Je vais être cobaye. J'ai lui demandé où l'on en était quant au tabou en santé mentale. Dans un formulaire d'emploi, si tu es honnête et que tu écris un diagnostic, tu es discriminé. Si tu ne l'écris pas et que tu tombes malade, tu peux ne pas être assuré. On a encore du chemin à faire socialement, confie-t-elle. Et on aseptise les mots. On ne dit pas dépression, on dit burn-out. On préfère TDAH à anxieux et insomniaque plutôt que bipolaire, tout sauf la référence psychiatrique. Ça fait peur de perdre le contrôle. Il y a une glorification de tout ce qui est neuro en ce moment, alors que les maladies psychiatriques se passent dans le même cerveau. Et voilà qui termine cette édition du 20 avril du quotidien Des Quotidiens. Rassurez-vous, Hélène Denis sera de retour lundi. Pour ma part, je vous invite à rester à l'écoute puisque Kevin Breton suit un instant avec une émission sur le sport. Je remercie Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Au revoir.